On peut commencer. Alors, bien, bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse, ainsi que ceux et celles qui sont derrière leur écran. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler du chapitre 4, l'entretien de Jésus avec la femme de Samarie, la Samaritaine. Alors, on sait que dans l'évangile de Saint Jean, cet épisode de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine vient après le baptême au Jourdain, l'appel des disciples, le premier signe de Cana, la purification du temple, l'entretien avec Nicodème, qui a fait l'objet du cours précédent. Alors, je voudrais d'abord faire une première remarque. Pardon, moi je suis un peu enroué. Une première remarque. En lisant très attentivement ce chapitre 4, où Saint Jean nous parle de l'entrevue avec la Samaritaine, nous ne pouvons pas ne pas être frappés par la précision des détails dans le corps du récit. Et tout laisse à penser que c'est le récit d'un témoin oculaire. Il ne se fait pas connaître. Le témoin, il ne dit pas son nom, il s'efface derrière le récit, mais ce récit contient tellement de détails très précis qu'il y a vraiment une forte probabilité que ce soit le récit d'un témoin oculaire. On n'est pas en présence d'une fiction littéraire mise en scène pour nous délivrer un message spirituel. Bien que, bien sûr, il y a un message spirituel de la plus haute importance dans ce chapitre 4. Mais je pense qu'on est vraiment en présence du récit d'un témoin oculaire. Une deuxième remarque que je me permets de faire, c'est une remarque concernant une réalité qui nous est déjà familière avec l'évangile de Saint Jean, pour nous enseigner les choses spirituelles. Le Christ procède à partir des réalités données de la vie quotidienne, de l'expérience commune des hommes, pour nous conduire vers une réalité plus élevée, plus essentielle, qu'il veut nous dévoiler et nous faire connaître. Ça, c'est un cheminement que l'on retrouve toujours, et c'est aussi le cheminement des paraboles. Les paraboles partent des réalités sensibles, de situations de la vie ordinaire, et ça c'est une première trajectoire. Il y a une deuxième trajectoire qui se dévoile progressivement, c'est une trajectoire spirituelle, mais qui part toujours des choses sensibles, pour aller plus haut. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si on se rapporte à notre quatrième chapitre, il faut se souvenir que les réalités sensibles ne sont pas dépourvues de signification, puisque elles appartiennent à la création de Dieu, et que, à ce titre, elles sont signifiantes. Elle porte une substance intelligible en elle-même, qu'il s'agit de découvrir, comme par exemple dans notre chapitre, l'eau et la nourriture. Il y a une nourriture terrestre, il y a une nourriture céleste. On part de la nourriture terrestre pour aller à la céleste, ainsi pour l'eau. D'où il résulte de ça l'emploi très fréquent du procédé de la double entente que l'on trouve dans l'évangile de Jean et des malentendus qui surgissent sans cesse dans cet évangile de Jean, malentendus entre le Christ et les disciples, comme c'est le cas, nous le verrons à la fin du quatrième chapitre, quand les disciples viennent de la ville avec la nourriture et que le Christ leur dit « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas » et les disciples disent « Quelqu'un lui a donné à manger » Bon, vous voyez, donc ce malentendu qui résulte de ce procédé employé constamment par saint Jean, malentendu qui repose sur le fait que les disciples ne sont pas assez ouverts à la réalité spirituelle que le Christ veut leur enseigner. Alors, si on suit les grandes étapes de notre récit, on pourrait le diviser en trois parties. Il y a d'abord Jésus face à la femme de Samarie, donc on est dans les trois parties dans le chapitre 4. Là, ce serait les versets 1 à 26. Ensuite, Jésus et les disciples de retour au puits de Jacob, les versets 27 à 38. Et ensuite, Jésus et les Samaritains, les versets 39 à 42. Et on peut peut-être affiner les choses concernant la structure du récit en répartissant les versets d'une façon un peu plus précise. Donc, versets 1 à 6, c'est l'introduction du chapitre où l'on voit Jésus aller vers la Galilée et traversant la Samarie. Donc là, c'est versets 1 à 6. Les versets 7 à 15, Jésus demande à boire, et cette demande, donc, elle inaugure le dialogue sur les deux eaux. Et on remarquera que pour inaugurer ce dialogue sur les deux eaux, Jésus se fait demandeur. Celui qui donne, par excellence, Jésus-Christ, il commence par se faire demandeur. Ensuite, les versets, alors ça c'était les versets 7 à 15, les versets 16 à 19, c'est la question des cinq Maries, donc le témoignage de Jésus sur la Samaritaine et celui de la Samaritaine sur Jésus. Les versets 20 à 26, c'est l'adoration en esprit et en vérité et la révélation de qui est Jésus. Moi qui te parle, je suis. Je suis moi qui te parle, dans cet ordre. Les versets 27 à 30, c'est l'arrivée des disciples et un nouveau témoignage de la Samaritaine. Les versets 31 à 38, c'est le dialogue sur les deux nourritures, puisqu'il y a un balancement dans tout notre chapitre entre deux dialogues, le dialogue sur les deux eaux et le dialogue sur les deux nourritures, et la moisson. Donc ça, c'est 31-38, et 39-42, c'est le témoignage des Samaritains. Voilà ce qu'on peut dire, en gros, sur la structure du récit, en remarquant qu'il est concentrique. Alors, je ferai d'autres observations concernant la structure du texte, sans trop m'y attarder, mais c'est important. Dans le dialogue avec la Samaritaine, donc du verset 7 au verset 26, on remarquera qu'il y a sept paroles de Jésus, sept paroles qui vont amener un changement intérieur et progressif de la femme samaritaine, qui va à chaque fois questionner, demander et affirmer. Et c'est pas étonnant en fait, puisque celui qui est d'abord en position de demandeur, hein. Jésus arrive au puits de Jacob et il est demandeur, donne-moi à boire. Et par cette demande, qu'est-ce qu'il veut en vérité? Il veut rejoindre la Samaritaine au plus profond d'elle-même, au plus profond de son être, pour lui donner, dans le but de lui donner l'eau qui est source de jaillissement en vie éternelle, comme il est dit au verset 14. Hein. Donc vous voyez, Jésus se fait demandeur, mais en fait, c'est lui qui va donner. Mais il commence par formuler une demande, et cette demande va ouvrir le dialogue. Alors Jésus et la Samaritaine vont faire une rencontre qui est tout à fait signifiante, et qui n'est pas due au hasard, comme on va le voir. C'est aussi une rencontre déterminante parce que elle a deux enjeux. La transformation spirituelle et intérieure de la Samaritaine et la révélation de la personne de Jésus. Les deux vont ensemble dans ces dialogues, c'est ça qui se joue. C'est la transformation progressive, le Seigneur amène à une transformation progressive intérieure et spirituelle la femme de Samarie, et au cours de ce processus, il va se dévoiler, il va se révéler. Donc les deux mouvements sont liés. Alors on constatera que pour une bonne intelligence du récit, on ne peut pas faire l'économie des nombreux épisodes bibliques qui sont évoqués et qui éclairent de l'intérieur la révélation de la personne du Christ et son dessein pour les hommes, comme nous allons le voir. Dès le début du récit, on peut, évidemment c'est plus facile pour nous puisque nous sommes lecteurs de l'Évangile, on peut avoir le pressentiment que le Dieu homme est celui qui accomplit la volonté du Père qui l'a envoyé. Déjà avec le verset 4, il est dit au verset 4, donc je reprends, il lui fallait traverser par la Samarie. C'est au début du récit, donc chapitre 4, verset 4. Et par là, Saint Jean nous montre qu'il n'y a pas de hasard dans cette rencontre, en fait. Il y a des exégètes qui disent que cette rencontre est due au hasard. Je ne le pense pas un seul instant, pour des raisons précises. D'abord, il y a une raison géographique. Jésus, donc, il nous est dit qu'il allait vers la Galilée. Il pouvait prendre un autre chemin. Il n'était pas obligé de passer par la Samarie pour monter en Galilée. S'il avait pris la vallée du Jourdain en la remontant, il pouvait éviter de passer par la Samarie. Et c'est un itinéraire que les Juifs prenaient, parce que nous savons que la Samarie était un territoire considéré comme impur, habité par un peuple en quelque sorte ennemi, ou au moins dont on se méfiait. Et donc on évitait de passer par la Samarie. Parce qu'on évitait également d'avoir à solliciter l'aide des Samaritains. Et les rabbins disent que, en cas d'extrême urgence, évidemment, on pouvait recevoir de la nourriture des Samaritains, mais si on demandait aux Samaritains de la nourriture, c'est comme si on allait consommer de la chair de porc, donc d'un animal impur. Donc vous voyez, pour ces raisons-là, et d'autres, on évite de passer par ce territoire. Or, Jésus monte en Galilée et passe par la Samarie, ce qui montre qu'il a derrière, il y a derrière cette notation topographique, il y a une intention déterminée de la part de Jésus. De même, la Samaritaine qui se rend au puits à la sixième heure, c'est-à-dire en plein midi, eh bien, nous montre qu'à cause des problèmes qu'elle rencontre dans sa vie, une vie qui est malgré tout assez désordonnée, puisque elle a eu cinq maris, et le récit nous le dira après, elle a eu cinq maris et l'homme avec qui elle est n'est pas son mari. Donc, elle ne tient pas à rencontrer les autres femmes qui vont puiser. Bon, dans ces régions-là, évidemment, le soleil de midi, il est brûlant, et c'est pas l'heure pour aller puiser de l'eau pour les besoins domestiques. On y va soit avant le lever du soleil, soit à la fin du jour. Et là, si elle y va en plein midi, on a peut-être une notation qui montre que, à cause de sa vie, des problèmes qu'il y a dans sa vie, elle est au banc de la société et elle ne veut pas rencontrer les autres femmes. Alors que par ailleurs, le puits est un lieu de, je dirais, de sociabilité dans ces sociétés. Le puits est un lieu où on va rencontrer les autres, où on va parler avec les autres. Et là, elle y va en plein midi, c'est bien qu'elle ne veut rencontrer personne. Donc, cette rencontre n'est pas fortuite, et elle obéit au contraire, en réalité, à la volonté de Dieu que le Seigneur applique. Il est là pour accomplir la volonté du Père. Et saint Jean nous dit, arrivé dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve la source de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis près de la source. C'était environ la sixième heure. Alors, dans le texte grec, on a deux mots qui désignent la source. On a déjà pegé, donc qui désigne la source, l'eau courante ou les ondes. Et plus loin, au verset 11, on a phréar, qui désigne le puits. Bon, ces deux termes, on les retrouve dans la Genèse au chapitre 24, donc ils sont parallèles dans la Septante. Hein. On les retrouve le premier au verset 11 et 20 et le second au verset 13 et 16. Et ce parallélisme qu'on trouve dans la Septante, on le trouve également dans le texte hébreu. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le puits de Jacob était profond, et que on a, en fait, c'est une source, et on y accède par un puits, parce que la source est très profonde. Et donc la source, il y a des eaux vives au fond. Hein, et le thème de l'eau vive, précisément, va revenir. Alors, Jésus s'arrête, je continue sur ce qu'il est convenu d'examiner comme réminiscence des épisodes bibliques, parce qu'il faut bien comprendre, ça nous aide à bien comprendre les choses. Bon, d'une part, on a vu que ce n'est pas du tout un hasard qu'il arrive là, que ça obéit à une volonté délibérée, et il va en ce lieu qui est hautement chargé de signification. C'était donc la ville, c'est Sychar. Sychar, c'est très proche de l'ancienne Sichem. Et Sichem, c'est un lieu extrêmement important dont on trouve des narrations dans la Genèse et dans le livre, dans le deuxième livre des Rois. Il s'arrête donc en un lieu hautement significatif, à la fois pour les Samaritains et pour les Juifs, pour les Judéens. Et là non plus, il n'y a pas de hasard, parce que le puits, c'est celui du patriarche Jacob. Vous savez, la Genèse ne parle pas expressément du puits de Jacob, mais parle du champ que Jacob a acquis et qu'il a donné à son fils Joseph. Hein. Reportez-vous au récit de Genèse 33-19, où le patriarche Jacob avait acheté au roi de Sichem donc un champ dans lequel il fit un autel à El, le dieu d'Israël, et puis ce champ sera dans l'héritage de son fils. Je ne veux pas donner lecture de ce récit, il faut vous y reporter. Mais ce que l'on remarque, c'est que non seulement c'est la source, et donc le puits de Jacob, c'est une tradition juive qui véhicule ça, mais plus généralement, dans les sources bibliques, le puits est un lieu de rencontre, et en particulier un lieu de rencontre homme-femme, lieu de rencontre qui est lié à la thématique nuptiale. Là, c'est intéressant. Par exemple, en Genèse 24, les versets 10 à 22, eh bien, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons le serviteur d'Abraham rencontre Rebecca, qui deviendra l'épouse d'Isaac. Donc le serviteur rencontre Rebecca au puits, et ça se terminera par le mariage d'Isaac et de Rebecca. En Genèse 29, 1-14, Jacob rencontre Rachel, qui deviendra sa femme. Et en Exode 2, 16-22, c'est le fameux récit où Moïse arrive au pays de Madian, et il rencontre au puits les filles de Jéthro, le prêtre de Madian, et il épousera l'une d'entre elles, Séphora. Donc vous voyez, le puits, quelque part, il est lié aussi à ce thème de la rencontre homme-femme et au thème nuptial. Alors, bien sûr, dans les récits de l'Ancien Testament, l'eau est demandée aussi, l'eau est donnée, et là, le mariage est scellé, dans ces cas-là. Au moins dans les références que je vous ai indiquées, mais dans le récit johannique, ça ne joue pas, évidemment, de la même manière. Le thème nuptial ne se termine pas, ne s'énonce pas sous la forme d'un mariage. Encore que, on peut penser que, avec la révélation de l'identité de Jésus, je suis moi qui te parle, et on va voir que la Samaritaine va lui donner des titres, quatre titres toujours plus significatifs les uns que les autres. Après la révélation de l'identité de Jésus, après la confession de foi des Samaritains à la fin de notre récit, on peut se demander si il n'y a pas quelque part sous-entendu la question des noces de la Samarie avec son vrai Dieu, et au-delà des noces de la Samarie avec son vrai Dieu, les noces mystiques du Christ avec l'humanité. Alors, après la mention de la source au puits de Jacob, notre attention, elle doit être retenue par le personnage de Jacob lui-même. Personnage qui est important pour comprendre ce passage. Il est plusieurs fois cité, et saint Jean nous dit que Jésus arriva près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Nous en trouvons la mention en Genèse 48, versets 21-22. Je cite, « Jacob Israël dit à Joseph, « Moi je te donne Sichem, une part de plus qu'à tes frères, que j'ai enlevé au pouvoir des Ammonites par l'épée et par l'arc. » Et on trouve également dans le livre de Josué qu'il est dit que les ossements de Joseph y sont enfouis. Je cite, « Quant aux ossements de Joseph, que les fils d'Israël avaient emportés d'Égypte, on les ensevelit à Sichem dans la portion de champ que Jacob avait achetée pour 100 pièces d'argent au fils de Hamor, donc qui était le roi de Sichem. » Ils firent partie du patrimoine de Joseph. Donc c'est dans Josué 24, 32. Ce lieu, donc cette source, ce puits, sont chargés d'une histoire qui renvoie au patriarche. Et la Samaritaine, elle montre qu'elle est attachée à cette tradition vivante des patriarches, tradition vivante chez ses semblables, les Samaritains. Et c'est pourquoi elle dira « Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» Mais avant d'en arriver là, revenons sur la question de départ. Le texte nous dit « Survint une femme de Samarie pour puiser de l'eau, Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Donc le dialogue commence à l'initiative de Jésus. Et la femme ne va pas percevoir d'emblée la visée de celui qui se fait demandeur et répond « Mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une femme samaritaine ?» Donc on peut dire qu'en apparence, la rencontre commence mal. Et Jésus se fait demandeur, je l'ai déjà dit, je le répète, Jésus se fait demandeur afin de donner et non de recevoir. C'est lui qui va donner et non pas lui qui va recevoir. Il se fait en quelque sorte mendiant pour pouvoir ouvrir le cœur de la Samaritaine et pour pouvoir lui donner. Alors, la réponse à la demande de Jésus de la part de la femme de Samarie n'est pas étonnante, puisque la Samaritaine lui dit « Mais comment un juif comme toi peut-il demander à boire à moi une femme qui plus est samaritaine ?» Si, bien sûr, c'est pas étonnant si on connaît le contexte historique. C'est-à-dire que la Samaritaine, elle est membre d'un peuple ennemi des Judéens. Mais cette demande et cette remarque vont permettre d'engager le dialogue ici qui, dans la première partie du chapitre 4, est centré sur les deux soifs. Je remarque également que la demande de Jésus « Donne-moi à boire » fait écho quelque part, ou rappelle plus exactement, la demande des Hébreux au désert, quand les Hébreux se querellent avec Moïse, et lorsque le peuple dit « Donne-nous de l'eau à boire », on trouve ça en Exode 17:2. Dieu indiqua alors le rocher d'où allait jaillir l'eau vive. Et voilà, voici ce qui est dit dans le texte de l'Exode. « Je vais me tenir devant toi, là sur le rocher en Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Donc c'est Exode 17:6. Donc ce qui est en jeu aussi là, c'est la grandeur du don de Dieu, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le dialogue qui s'instaure entre la Samaritaine et Jésus. Celle qui vient en plein midi puiser de l'eau, celle qui est au banc de la société à cause de sa vie, et les rabbins disaient qu'après le troisième mariage, il ne reconnaissait plus les autres, et qu'à partir du troisième mariage, il y avait problème, ce qui était quand même de l'ordre du bon sens, pour ne pas dire plus. Mais malgré tout, on sent que cette femme de Samarie est porteuse d'un désir au fond d'elle-même. Et Saint Jean Chrysostome le dit d'ailleurs dans son homélie. Enfin, il y a quatre homélies de Saint Jean Chrysostome sur la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Et il le dit, elle est porteuse d'un désir profond au fond d'elle-même. Peut-être est-elle prête à s'ouvrir, sans trop le savoir, justement à cause du désir qui l'anime. Et nous allons le voir. Et peut-être qu'on peut dire qu'elle ne sait pas qui est son vrai mari, mais qu'elle cherche son vrai mari. Peut-être ça, au fond, son désir. Pourquoi pas? Alors, il s'engage le dialogue sur les deux eaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette eau, ce symbole de l'eau qui est si important dans l'évangile de Jean? Nous l'avons déjà vu, mis en œuvre depuis le chapitre 1. Eh bien, il faut se souvenir que l'eau, c'est un symbole fort, c'est un symbole qui est lié à la révélation, à la connaissance et à la sagesse dans les sources vétérotestamentaires. Et on compare le sage, par exemple, dans le livre des Proverbes, on compare le sage à une fontaine de vie. Isaïe nous dit également, « Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. » Chapitre 51. Chapitre 51, d'ailleurs, qui au commencement est à mettre, prenez le temps de faire le parallèle entre ce commencement du chapitre 51 d'Isaïe et l'homélie pascale de Saint Jean Chrysostome. Vous verrez, vous découvrirez un certain nombre de choses. Dans les paroles des pères, donc un écrit rassemblant la tradition des anciens d'Israël, au chapitre 6, il est dit que celui qui étudie la Torah est comparé à une fontaine au jaillissement perpétuel et comme un fleuve intarissable. Donc le thème de l'eau vive est connu. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que chez les prophètes, l'eau vive, elle devient un symbole des biens messianiques qui doivent advenir, que vive un aspect eschatologique, donc. Et ainsi elle est mise en valeur. L'eau signifie également l'esprit, toujours chez les prophètes d'Israël. En particulier, si on se réfère à Ézéchiel 36, les versets 25 à 27, dans la promesse de restauration spirituelle, il est dit « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs, je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et au verset 10 de Saint Jean, nous trouvons le terme « doréa », don, terme qui désigne précisément l'esprit dans l'Église primitive, tel qu'on trouve dans le livre des Actes. Et le verbe « donner » qui est répété à plusieurs reprises, il a pour objet l'esprit, tel que nous le voyons dans le troisième chapitre au verset 34, dans l'Évangile de Saint Jean. Nous l'avons vu précédemment. Et il a pour objet aussi le paraclet dans le dernier discours, dans le discours d'adieu que nous trouvons au chapitre 14, au verset 16. Donc, on vient de voir que la femme s'étonne qu'un juif lui demande à boire, mais on peut considérer que la réponse de Jésus va la mettre en mouvement intérieurement. Quelle est-elle, cette réponse de Jésus ? Je cite, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est le verset 10. Hein. Alors là, on était précédemment dans l'eau du puits, hein, qui permet d'aller à la source de Jacob, et dans la réponse, il n'est plus question de l'eau du puits, mais d'une eau céleste, d'un don céleste. Mystérieusement, don céleste qui est mystérieusement lié à la personne de celui qui parle, c'est-à-dire de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la femme se référant à une haute tradition qui remonte au patriarche d'Israël, c'est-à-dire avant Moïse et la loi, hein, manifeste son étonnement, fait part en quelque sorte de son incrédulité, du moins son incrédulité pointe. Et c'est, comme nous dit Saint Jean Chrysostome, le signe de quelque chose qui, dans son fort intérieur, commence à se mettre en mouvement. Non. Seigneur, tu n'as même pas un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc, cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu avec ses fils et ses bêtes ? C'est le verset 11. Alors on sait que, vous savez que l'archéologie biblique, c'est une discipline extrêmement importante, hein, qui fait des progrès de jour en jour et qui nous apporte beaucoup de renseignements pour voir que les récits bibliques ne sont pas des récits mythologiques, hein, qu'ils s'appuient sur une histoire bien réelle. Donc en 1927, on a découvert ce puits qui mène à la source de Jacob, on l'a mesuré, et il faisait 28 mètres, parce que, bon, probablement, il s'est, par des alluvions successives, il s'est ensablé, ou je ne sais quoi, donc on estime qu'il faisait entre 32 et 33 mètres. Donc, effectivement, puiser pour aller chercher l'eau de la source, si on n'a pas un récipient ou un seau, comment faire ? Donc, de ce fait, on comprend la remarque de la Samaritaine. Mais en même temps, on voit la question « Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» Donc il se passe quelque chose en elle. Elle ne dit pas « Tu n'es pas plus grand que notre père Jacob. Hein ?» Elle dit « Serais-tu plus grand que notre père Jacob ?» Donc il y a une mise en mouvement intérieure, qui est souligné d'ailleurs par l'emploi des verbes en grec au verset 11. C'est le verbe « alomai » que Saint Jean utilise pour désigner justement le jaillissement de cette eau, qui, ce verbe qui signifie sauter, bondir. Et dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, ce verbe, il est lié au venu de l'Esprit de Dieu, comme on le voit dans l'épisode du mariage de Samson, dans le livre des Juges, au chapitre 14, verset 6. Alors, les pères aussi sont très abondants dans leurs commentaires là-dessus, hein, sur qu'il s'agisse de Cyril de Jérusalem, qu'il s'agisse de Clément d'Alexandrie, d'Origène ou de Saint Jean Chrysostome. Et ainsi, le don de Dieu n'est autre, parce que l'eau vive dont Jésus parle, hein, dans sa réponse, « Il t'aurait donné de l'eau vive », cette eau vive, c'est le don de Dieu, et le don de Dieu, c'est l'eau vive que Jésus donne, mais le don de Dieu par excellence, c'est Jésus lui-même. Donc, vous voyez, en même temps dans sa réponse, je vous ai parlé au début de ce double mouvement qui est parallèle, hein, c'est-à-dire que la première demande de Jésus va inaugurer le dialogue sur les deux eaux, va mettre en mouvement les réponses de Jésus, et les nouvelles remarques de la femme attestent qu'il y a une mise en mouvement intérieur chez elle, et en même temps, il y a un dévoilement progressif de la personne de Jésus. Parce que l'eau vive, c'est le don de Dieu, et le don de Dieu par excellence, c'est le Seigneur lui-même. Donc l'eau ici, elle est révélation, elle est don de l'Esprit, et comme le dit un auteur, cette vérité ne peut rester extérieure à l'homme, elle doit être assimilée dans la foi pour qu'elle puisse devenir dans la foi une source jaillissante. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Ben, la femme, elle répond qu'elle veut goûter cette eau d'en haut, car elle est assoiffée. Et on voit Jésus qui veut satisfaire sa demande. Alors, vous avez remarqué que la femme de Samarie a nommé Jésus juif, d'abord. Elle lui a donné ce titre, ce qui est vrai, Jésus est juif. Donc elle l'a appelé, elle a dit « Comment toi, un juif ?» hein. Là, elle va lui donner un autre nom. Elle va dire « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Au verset 15. Alors ce titre « Seigneur », il va prendre trois sens successifs. Dans cette première nomination de Jésus comme Seigneur, c'est pas la manière dont nous nous le faisons, c'est une espèce de forme de politesse, je dirais. Mais quand même, on est déjà, c'est plus le juif, c'est Seigneur. Et puis, à deux autres reprises, elle va le nommer Seigneur avec une intensité toujours plus grande. Et ce qui va se cacher derrière ces trois nominations Seigneur, 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 montre son progrès intérieur et spirituel. Alors, évidemment, ce que dit la Samaritaine au verset 15, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici. » Elle a, comme bien souvent chez Jean, une double entente. Hein. Elle a un sens matériel, elle n'est pas encore complètement dégagée des réalités et des soucis terrestres, cette brave Samaritaine. Hein. Donc il y a un sens proprement matériel. Bah, ça l'arrange d'avoir de cette eau pour ne plus venir y puiser, surtout qu'elle vient, pour éviter les autres femmes de la contrée, elle vient à la sixième heure, en plein midi, là où il fait le plus chaud. Mais il y a un sens vers lequel Saint Jean veut nous conduire, bien sûr, c'est ce qui se joue derrière, c'est l'opposition entre les passions humaines, les vies dégradé de ces passions humaines, ces passions humaines qui sont dévorantes et qui fait qu'on a soif, mais on a toujours soif. Parce que les passions sont destructrices, elles sont dévorantes, on ne peut jamais les satisfaire. Et elles se rappellent toujours à nous. Donc, si nous les alimentons, nous avons toujours soif, en quelque sorte. Et parce qu'elles ne sont jamais satisfaites. Et l'eau, qui est don de Dieu, et cette eau-là, elle comble le désir du cœur de l'homme. Parce que ce désir du don de Dieu habite le cœur de l'homme. Cette eau qui est don de Dieu, c'est celle qui nous ouvre aux réalités d'en haut, celle pour laquelle nous sommes, enfin, ces réalités, celle pour lesquelles nous sommes faits, en vérité, selon notre vraie nature. Et notre nature surajoutée, elle nous envoie dans le marais, dans le cloaque des passions, mais notre vraie nature, elle est faite pour le don de Dieu, parce que il y a, comme le disent les pères cappadociens, ce désir qui est au cœur de l'homme, le cœur de l'homme qui est, comme dit Nicolas Cabasillas, un écrin capable de contenir celui qu'aucun lieu ne peut contenir. Donc c'est, vous voyez, des paroles extrêmement fortes et significatives. Et en nommant Jésus Seigneur pour la seconde fois, donc là, le mot Seigneur est beaucoup plus fort, la Samaritaine entrevoit cette réalité nouvelle. Elle a encore monté d'un degré, si je puis me permettre. Alors à partir du chapitre, du verset 16, toujours dans le chapitre 4, s'ouvre un nouvel épisode du dialogue entre Jésus et la Samaritaine. On va passer progressivement de ce dialogue sur les deux eaux, où le cœur et l'esprit de la Samaritaine vont s'ouvrir. On passe à la question de l'adoration en esprit et en vérité. Et pour cela, Jésus dit à la Samaritaine, « Va, appelle ton mari. » Il y a comme une césure, là, en quelque sorte. Comme si, est-ce qu'il veut discuter simplement avec, en sa présence avec son mari ? Oui, parce que faut se rappeler que c'est un convenant dans la tradition juive, un rabbi qui plus est, qui discute seul avec une femme qui plus est, qui est samaritaine. Donc il y a de l'inconvenance dans la situation. Et Jésus, donc, quand le discours sur les deux eaux se termine, lui dit « Appelle ton mari ». Et la femme lui répond « Je n'ai pas de mari ». Jésus lui dit, tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu cinq, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai, ajoute Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la Samaritaine, elle est sincère. Elle dit, j'ai pas de mari. C'est vrai. Au moment où elle parle, elle n'a pas de mari. Mais elle dit pas tout. C'est Jésus qui vient... qui fait monter la situation réelle de la Samaritaine, il lui parle avec autorité à ce moment-là. Il se dévoile un peu plus auprès d'elle, parce qu'il lit dans son cœur, il lui dit, bon, tu es sincère, tu n'as pas de mari, mais tu en as eu cinq, et le sixième avec qui tu es, c'est pas ton mari. Bon. Alors, cette Samaritaine, elle a une vie désordonnée, comme on l'a vu. Mais qu'est-ce qu'elle a cherché ? Peut-être, parce que vous savez que si elle a eu cinq maris, les cinq maris lui ont fait une lettre de répudiation. Dans la loi mosaïque, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas la femme qui répudie, c'est l'homme. Donc elle a eu des lettres de répudiation, chose qui était permise par la loi mosaïque. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une hypothèse, le récit ne nous le dit pas. Mais peut-être que cette femme... qui a un désir profond, secret, caché, cette femme, elle quêtait l'amour absolu, mais elle le quêtait dans le commerce des hommes. Or, l'amour humain ne peut pas nous permettre de trouver l'amour absolu. L'amour humain, il est très relatif, il charrie beaucoup de choses très bonnes, mais aussi il charrie avec des choses bonnes, des choses moins bonnes. de telle sorte que cette femme ne peut pas trouver l'amour avec un grand A dans le commerce des hommes, pas plus qu'un homme ne peut le trouver avec une femme, je veux dire, ça c'est bon, une vérité élémentaire. Donc voilà, il y a d'autres personnages dans l'Évangile et dans la tradition chrétienne qui sont dans ce cas-là, Marie-Madeleine par exemple, ou Marie l'Égyptienne, la grande ascète, bon, qui cherchait l'amour, mais le cherchait à travers le commerce des hommes. Donc, là où elle ne pouvait pas le trouver. Et les deux, Marie-Madeleine et Marie l'Égyptienne, quand elle rencontre le Christ, elle trouve le véritable amour. Peut-être que c'est ça, c'est aussi ça qu'on peut lire en filigrane dans le récit de la Samaritaine, ce qui explique son désir, parce que elle a une vie désordonnée, mais elle est insatisfaite. Elle cherche quelque chose confusément, secrètement, elle cherche quelque chose de plus haut, parce que elle a fait le tour de la question, elle a soif, effectivement, de l'eau vive qui va vraiment la désaltérer, et non plus de l'eau du puits qu'elle est obligée d'aller chercher tous les jours et qui ne peut la satisfaire véritablement au fond d'elle-même. Alors, l'attitude de Jésus peut paraître dure, mais en fait, c'est une attitude de miséricorde, parce qu'en faisant monter au jour la situation réelle de la Samaritaine, tu fais bien, en cela tu dis bien, mais tu as eu 5 maris et le 6e, c'est pas ton mari. En faisant monter cette situation, c'est pas une dureté de la part de Jésus, c'est un acte de miséricorde, parce que il fait monter au jour cette situation dans laquelle elle est, et il va pouvoir lui faire miséricorde, il va pouvoir la guérir intérieurement. C'est quelque chose, c'est une leçon pour tous les temps. Je veux dire, c'est quand on va au médecin, on parle de sa maladie. C'est pas concevable d'aller voir le médecin et de lui cacher sa maladie. Donc là, elle ne s'était pas dévoilée, mais elle n'avait pas menti pour autant. Et le Christ va vouloir l'emmener plus haut en lui disant quelle est sa situation. Et elle va recevoir cette parole et elle va pouvoir être pardonnée. C'est un acte de miséricorde que fait le Christ derrière l'apparente dureté de cette parole. Vous voulez dire quelque chose?
Oui, parce que je pensais que, en fait, Jésus, en même temps, se révèle aussi progressivement.
Tout à fait.
En lui disant ça, elle comprend qu'il est prophète à ce moment-là.
Alors oui, voilà. Donc, il y a le troisième Seigneur qui apparaît.
Voilà.
Seigneur, donc pour la troisième fois. Voilà. Non, c'est-à-dire que c'est la preuve de son progrès intérieur.
Oui. Et Jésus, il est miséricorde parce que grâce à sa volonté, à la volonté de cette femme, parce
oui.
que c'était un acte de repentance.
Ah, tout à fait.
La femme, elle a reconnu que la vérité qui
oui.
concerne sa vie désordonnée, et pour ça, lui, il était vers elle.
Voilà.
Pour ça, c'est vraiment
absolument.
Au derrière, c'est pour la repentance.
La repentance.
Et Jésus, c'est ça qu'il demande toujours.
Et voilà.
Il ne peut pas être miséricorde avec quelqu'un si la personne n'a pas la volonté de faire la repentance.
Bien sûr. Et oui. Ça, c'est au cœur de ce récit aussi, ça. C'est-à-dire que parce que la femme de Samarie va faire repentance, lui, il peut apporter le pardon et la miséricorde. Mais il la conduit en même temps sur le chemin de se repentir. Il l'amène à se repentir en lui dévoilant sa vie. Et donc, d'ailleurs, il y a saint Éphrem le Syrien dit « Tout péché peut être pardonné sauf celui qui n'est pas repenti. » C'est un peu plus clair.
Donc, tous les saints-pères, il le recommande, tous les saints-pères le recommandent en fait, aussi de le faire par Issus.
Oui, bien sûr.
Il dit, moi je recommande toujours la repentance, pas seulement la confession. La confession avec la repentance.
Bien sûr. Bien sûr.
C'est pas mais possible oui. La confession si, si
et oui, oui.
Après le cœur ne se change pas.
Oui, oui, c'est-à-dire que la, oui, la confession et la repentance, ça doit aller ensemble, sinon ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de. Alors donc là, on est enfin Seigneur pour la troisième fois, hein, non ? Lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Donc on a eu Juif, Seigneur, 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 prophète. Et il y a encore un autre titre qui va venir. Hein ? Mais vous voyez, la perception. Qu'à la de Jésus s'affine à la mesure, à l'exacte mesure de son progrès intérieur et du dévoilement que le Christ fait progressivement de lui-même. Mais il ne s'impose pas comme tel, je veux dire. Il l'amène intérieurement. Hein, de la même manière qu'il sauve les hommes en assumant de l'intérieur la nature humaine. Quand Adam, par exemple, a péché, Dieu aurait pu donner un décret de pardon à Adam. Mais les pères disent, Dieu n'a pas choisi cette voie-là, parce que ce décret, finalement, il aurait été extérieur à l'homme. Donc, Dieu, dans sa pédagogie admirable, a choisi donc de préparer les hommes à sa venue dans la nature humaine. Le Verbe qui s'est fait chair et qui a assumé de l'intérieur la nature humaine pour la sauver. Vous voyez, la démarche est totalement différente. Là, de la même manière, le Christ va conduire doucement la Samaritaine vers ce point d'orgue qui est, elle va lui décerner le titre de Messie, et qu'il va dire « Je suis hein ». Mais on a la trace là d'un cheminement spirituel intérieur de la femme qui, depuis le premier dialogue, ouvre son cœur à ce personnage qui est d'abord très énigmatique, mais qui va entrer en résonance par ses paroles avec son désir le plus profond. C'est ça tout l'enjeu de ce récit. Alors, l'évocation, ah oui, donc quelque chose qui est important, c'est que le verbe grec théoro traduit non seulement l'action de voir, quand elle lui dit « je vois que tu es un prophète », ce verbe traduit l'action de voir, mais aussi, en arrière-plan, l'activité de l'esprit qui cherche à comprendre. C'est pas la vision comme ça... Voilà, c'est. Elle cherche, et c'est la preuve qu'elle est en mouvement, qu'elle cherche. Son désir va devenir de plus en plus. Va monter au jour. Hein. Désir qui est enfoui, qui est secret au fond d'elle-même, qui va la mettre en communication avec cet homme qui lui demande à boire au puits de Jacob. Et bien, ce désir va, dans ce dialogue, monter progressivement, devenir s'exprimer de plus en plus ouvertement et conduire la Samaritaine vers la reconnaissance donc de Jésus comme d'abord juif, trois fois Seigneur et prophète, au point où nous en sommes. Donc, l'évocation, c'est là qu'il y a aussi un jeu de la double entente chez saint Jean, l'évocation des cinq Maries, ça renvoie pas simplement à sa vie désordonnée et aux cinq lettres de répudiation qu'elle a reçues, ça renvoie aussi à quelque chose qui nous fait comprendre l'histoire de la Samarie. Dans le deuxième livre des rois, donc au chapitre 17, des versets 24 à 41, il y a un enseignement intéressant qui nous permet de comprendre la double entente chez saint Jean. Alors, deuxième livre des rois, c'est le quatrième livre des règnes dans la Septante. Hein. Vous savez que les deux Samuel, c'est premier et deuxième règne, et un et deux rois dans la Massora, c'est trois et quatre règnes. Voilà, je le dis pour ceux qui sont familiers avec le canon des Septante. Donc l'évocation des cinq Maries renvoie à ce récit de deux rois, 17, 24, 41. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce récit ? Que le roi d'Assyrie, Salmanassar, celui qui a fait la conquête donc du royaume de Samarie, en moins 721 avant Jésus-Christ, puisque vous savez qu'il y a eu deux conquêtes, le royaume du Nord et puis le royaume de Judée. Donc il y a le royaume de Judée où il y a eu la déportation d'une partie de la population à Babylone, et le royaume de Samarie, lui, avait été conquis plus d'un siècle et demi avant. Alors voilà ce qui est dit. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kout, de Hawa, de Hamat et de Sépharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des fils d'Israël. Ils prirent possession de la Samarie et en habitèrent les villes. Donc, le roi d'Assyrie, Salmanassar, il fait comme à peu près tous les conquérants au cours de l'histoire font, il met des colonies de peuplement, issues de cinq peuples, comme par hasard, cinq peuples. Alors, ces cinq peuples qui vivent dans la Samarie occupée, comment ne pas faire un rapport avec aussi les cinq maris de la Samaritaine, bien sûr. Et c'est nous. Ce qui est intéressant aussi à considérer, c'est que ces cinq peuples qui habitent désormais la Samarie sous occupation assyrienne, eh bien, ils viennent avec leurs coutumes religieuses, ils viennent avec leurs divinités, ils viennent avec leurs idoles. Et qu'est-ce qui se passe, nous dit le deuxième livre des rois ? Eh bien, le culte du vrai Dieu, donc Adonai Elohim, le Dieu de la révélation biblique, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, ben, il aurait pu disparaître, sauf que il y a une malédiction qui s'abat sur ces colons qui sont en Samarie, c'est que les fauves, les lions, les attaquent et en dévorent un certain nombre. Alors ça fait que eux-mêmes, évidemment, c'est le livre des rois nous dit que c'est Dieu lui-même qui a envoyé les lions pour attaquer les colons des cinq peuples de la Samarie et les faire mourir, car ils ne connaissaient pas la façon d'adorer le Dieu du pays. Le Dieu du pays, c'était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'est-ce qui se passe, nous dit le livre des rois ? Eh bien, les gens vont se plaindre, bien sûr, puisqu'ils sont attaqués par des fauves. Et l'un des prêtres, donc du vrai Dieu, qui avait été déporté de Samarie, il vient habiter Bethel. Le roi, donc, le permet. Il vient habiter Bethel et il enseigne aux Samaritains comment on devait craindre le Seigneur. Reportez-vous au deuxième livre des rois, 17, et là, c'est les versets 26 à 28, donc dans la grande péricope que je vous ai indiquée, donc tout l'ensemble 24-41. Voilà, donc ce prêtre vient et enseigne aux Samaritains comment on devrait craindre le Seigneur, nous dit le deuxième livre des rois. Mais il y a, on pourrait se dire, ça se termine plutôt bien, mais il y a une circonstance aggravante qui explique l'antagonisme entre les Juifs et les Samaritains. C'est que le culte qui est rendu par les Samaritains suite à cette action au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas un culte exclusif. Il continue parallèlement à adorer les idoles, leurs idoles, ces cinq peuples. Donc évidemment, ça c'est particulièrement grave, parce que le culte au dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, il vient en sixième position. C'est le sixième homme qui n'est pas le mari. Vous voyez ? Les cinq, là, c'est les cinq peuples avec leurs idoles, et le sixième homme, comme un culte surajouté, celui du vrai Dieu, mais celui-là, c'est pas le vrai mari. Pourquoi ? Parce que ce culte est mélangé au culte des idoles. Et ça, évidemment, c'est une circonstance très grave, parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu exclusif, et il veut qu'on lui rende le culte à lui seul et à aucun autre Dieu. Donc, ça fait écho, évidemment, au sixième homme qui n'est pas le mari de la Samaritaine dont parle Jésus. Et ce mélange de populations, ce syncrétisme religieux propre aux Samaritains faisait que les Juifs les considéraient comme véritablement un peuple impur, un peuple ennemi, parce que de par leur syncrétisme religieux, ils étaient porteurs d'une véritable impureté religieuse. Ils ne rendaient pas le culte unique au Dieu unique. C'est pour ça que les Samaritains sont méprisés par les Judéens et qui sont tenus à l'écart de leur communauté. Alors il y a d'autres raisons aussi. C'est les Samaritains ne reçoivent pas les prophètes. Ils ont les cinq livres de Moïse, le Pentateuch, mais ils n'ont pas les livres prophétiques et ils n'ont pas les autres écrits, comme les Juifs. Les Samaritains ont en plus un temple rival sur le mont Garitzim, qui sera d'ailleurs détruit en 129 par Jean Hyrcan. Donc c'est un lieu rival du temple de Jérusalem, comme nous allons le voir. Alors, cette femme de Samarie, elle est attachée à la tradition des patriarches, elle sait tout cela, et la conclusion des versets 16 à 19, c'est que la Samaritaine doit retrouver son seul vrai mari, comme la Samarie doit retrouver son seul vrai Dieu. Hein, là, il y a un parallélisme qui est fait. Ce mari qui donne l'eau, comme Jacob et Moïse abreuvèrent leurs troupeaux et leurs futures épouses. Donc là, on a un dévoilement supplémentaire de la personne de Jésus. Et à partir du verset 20, donc à partir du verset « Nos pères sur cette montagne ont adoré », à partir du verset 20 s'ouvre encore une nouvelle étape dans la révélation de la personne de Jésus à la Samaritaine, puis, à cause de son témoignage et des paroles de Jésus, aux Samaritains venus à sa rencontre. La femme reprend la parole et après avoir dit à Jésus « Je vois que tu es prophète », eh bien, il survient dans le récit la question de l'adoration de Dieu, véritable ligne de fracture entre les Samaritains, le lieu de l'adoration de Dieu. C'est une véritable ligne de fracture entre les Samaritains et les Juifs, parce que cette question du lieu de l'adoration, elle recoupe aussi la question de l'élection. Qui Dieu a élu ? Est-ce que c'est les Samaritains ? Est-ce que c'est les Juifs ? En quel lieu faut-il l'adorer ? Au temple de Jérusalem ou sur le mont Garitzim, où il n'y a plus de temple au temps de Jésus, mais où anciennement avait été construit un temple qui a une attestation, toujours dans le Deutéronome, chapitre 27, les versets 11 à 13. Je cite « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous affirmez... Donc ça, c'est la parole de la Samaritaine. « Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. » Donc, ce que dit Deutéronome 27, 11-13, c'est ceci. « Ce jour-là, Moïse donna au peuple cet ordre. Voici ceux qui se tiendront sur le mont Garitsim pour bénir le peuple, quand vous aurez passé le Jourdain. Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin. Et voici ceux qui se tiendront sur le mont Ébal pour la malédiction. Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan et Nephtali. Autrement dit, cette montagne des Samaritains, le mont Garitsim, c'est la montagne des bénédictions dont parle le Deutéronome. Et sur cette montagne, il y a de nombreux événements bibliques qui sont localisés par ces mêmes Samaritains. Le sacrifice d'Abraham et sa rencontre avec Melchisédek. Jacob qui y dresse un autel, ainsi qu'on le voit en Genèse 33-20. Le premier sacrifice des Hébreux en ces lieux, ce lieu qui est la prémisse de la possession de toute la terre de Canaan, puisque ça se passe quand les Hébreux arrivent en Canaan. Inversement, pour les Juifs, c'est à Jérusalem qu'on adore. Dans la prière de dédicace du temple de Salomon, le roi dit « C'est donc bien pour toi que j'ai bâti une maison princière, une demeure où tu habiteras toujours. » C'est dans le premier livre des Rois, chapitre 8, verset 13. Le temple est donc celui où réside, c'est le lieu de la présence de celui qu'aucun lieu ne peut contenir. Hein ? Donc le créateur de toutes choses, et à ce titre, il est le centre du culte d'Israël, là où sont célébrés les sacrifices quotidiens, là où sont célébrées les grandes fêtes, Pessah, la Pâque, Shavuot, donc 50 jours après la Pâque, et Sukkot, à l'automne, donc les trois grandes fêtes qui sont des pèlerinages, qui rassemblent tout Israël, ou au moins une très grande partie d'Israël, et les Juifs de la diaspora, quand ils peuvent y venir. Donc il y a une opposition sur ces deux lieux et sous-jacente sur la question de l'élection. Et dans sa réponse à la Samaritaine, au verset 21, Jésus dit « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Une parole célèbre. Mais il ajoute, Jésus, « Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. » C'est verset 21 à 23 du quatrième chapitre. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec Jésus, les temps eschatologiques sont là. L'heure dont on parle, on a déjà rencontré ce thème de l'heure hein, dans les chapitres précédents, notamment à Cana. Hein, mon heure n'est pas encore venue. Bon, l'heure vient et elle est là, nous dit Jésus. Donc ça veut dire que les temps messianiques sont inaugurés, qu'on est désormais dans les temps eschatologiques. Hein, puisque on est dans le temps de l'avènement du Messie. Et les vrais adorateurs dont il s'agit ici, c'est ceux qui sont dignes de ce nom. Et je remarque que adorer, entre le verset 10 et le verset 26, adorer, adorateur, revient 10 fois. Donc, d'où l'importance de cette thématique dans notre récit. Alors, évidemment, par rapport à la parole de Jésus, il reste à la Samaritaine à discerner dans le prophète la gloire de Dieu qui habite en Jésus, qui est plus qu'un prophète, bien sûr. Parce que Jésus, après avoir purifié le temple, il s'est identifié au temple. Mais ce temple non fait de main d'homme. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Évidemment, il s'attire les sarcasmes de son auditoire. Il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, tu prétends le reconstruire en 3 jours. Là aussi, hein, il y a le malentendu hein, qui est là. Mais cette fois, C'est plus des lieux d'adoration dont il s'agit, c'est l'adoration elle-même qui prend le pas sur le lieu où elle doit être rendue. C'est là qu'il y a quelque chose de nouveau. Et ça veut dire quoi, l'adoration qui prend le pas sur le lieu où elle doit être rendue? C'est l'annonce d'un changement vraiment décisif dans le culte, un changement décisif dans la relation entre l'homme et Dieu, puisque on est dans les temps messianiques, on est dans les temps eschatologiques. Mais Jésus le fait tout en affirmant devant la Samaritaine la supériorité du culte juif, qui est exclusif, c'est-à-dire qui n'adore que Dieu seul, et qui est exempte de tout syncrétisme. C'est pourquoi il dit « le salut vient des Juifs ». Il vient des Juifs qu'il est lui-même, d'ailleurs, selon son humanité. Donc, il y a ce balancement, si j'ose dire, à la fois l'annonce d'un changement radical dans la relation homme-Dieu, à cause du fait que les temps messianiques sont advenus, et en même temps, tout cela vient des Juifs, parce que du fait que leur culte est exclusif, eh bien, Jésus dit, ils adorent ce qu'ils connaissent, alors que les Samaritains qui sont dans un syncrétisme religieux, qui sont dans un mélange, qui font du culte du Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob le sixième, côté des cinq autres, eh bien, ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, puisque les temps messianiques sont advenus, l'adoration, il faut désormais accomplir l'adoration véritable. Et cette adoration, elle n'est plus liée à un lieu déterminé. Non pas qu'il n'y ait plus de culte extérieur, public, liturgique, mais cette adoration, elle doit être fondée en esprit et en vérité, car l'Esprit de Dieu est le guide, le Messie, il amène l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est le guide infaillible de toute adoration véritable. Donc vous voyez le déplacement dans la relation homme-Dieu. Et lorsque l'esprit de l'homme est illuminé par l'esprit de Dieu, il adore ce qu'il connaît. Au contraire, s'il n'est pas illuminé par l'esprit de Dieu, il adore ce qu'il ne connaît pas. Et puis il faut souligner aussi que l'adoration en esprit et en vérité, elle touche la rencontre personnelle avec Dieu, elle touche à la rencontre personnelle avec Dieu, dans un face-à-face intime de la personne humaine avec la Sainte Trinité. Et les prophètes avaient déjà annoncé que dans les temps messianiques, c'est partout que l'on pourrait prier le Seigneur, et non plus dans ces lieux aussi importants pour les Juifs et les Samaritains, au Temple de Jérusalem ou sur le mont Garitzim. Malachie l'avait dit, au chapitre 1, verset 11, « Car du levant au couchant, grand est mon nom parmi les nations, en tout lieu un sacrifice d'encens est présenté à mon nom, ainsi qu'une offrande pure, car grand est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur. » Et les prophètes ajoutent que l'effusion de l'Esprit, c'est par excellence le grand don messianique. Et l'effusion de l'Esprit, c'est le Christ qui va le donner. Et en se révélant à la Samaritaine, eh bien, par cette révélation, Jésus annonce que les oracles prophétiques, mais ils sont accomplis. Ils sont désormais accomplis en sa personne, parce que en sa personne se concentrent la loi et les prophètes. L'heure est là, donc la déclaration de Jésus, mais l'heure vient, elle est là, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Tels sont les vrais adorateurs que cherche le Père. Eh bien, si vous voulez bien être attentif à la chose, c'est le point d'orgue de toutes les étapes précédentes, de l'enseignement des étapes précédentes, de l'entretien avec la Samaritaine, et plus largement des enseignements des chapitres 2 et 3 de l'Évangile de Saint Jean, parce qu'il y a une continuité. Le vin de Cana, il était la préfiguration de l'esprit, le vin nouveau, la purification du temple. Eh bien, on l'a vu, elle annonçait le sacrifice unique et parfait, parce qu'en chassant les marchands du temple, le Christ mettait de fait fin au sacrifice ancien. S'il n'y a pas les marchands de bestiaux, les changeurs de monnaie, tout ça dans le temple, le temple ne peut plus fonctionner. Les sacrifices ne sont plus possibles. Donc, à Nicodème, il enseignait la nouvelle naissance d'eau et d'esprit, condition nécessaire pour entrer dans le royaume. Et à la Samaritaine, ben, il révèle ce qu'annonçaient ces épisodes précédents dont nous parle saint Jean, l'adoration en esprit et en vérité suscitée par Dieu au cœur de ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire de l'eau et de l'esprit. Alors, esprit et vérité, là, la vérité, elle n'est pas dans une relation d'opposition avec l'erreur. La vérité, elle signifie la fidélité de Dieu. Donc, elle est en relation avec la réalisation, l'accomplissement des promesses contenues dans la loi et les prophètes, l'accomplissement qui se fait en la personne de Jésus. Et c'est pourquoi le culte des temps messianiques n'est plus lié à un lieu particulier. Ce culte des temps messianiques, par donc l'inauguration des temps messianiques dans la personne de Jésus, eh bien, il est la réalisation de la promesse prophétique d'une adoration universelle telle que l'avait prophétisé Malachie. Et cette réalisation, elle dépasse l'antagonisme entre Jérusalem et le mont Garizim, elle dépasse l'antagonisme entre les Juifs et les Samaritains, et elle appelle à l'entrée dans l'Alliance de toute l'humanité. Au-delà des Juifs et des Samaritains, c'est toute l'humanité qui est appelée à entrer dans l'Alliance. Et c'est bien ce qui va se passer, parce que lorsque la Samaritaine va revenir avec les gens de la ville auxquels elle aura parlé, les Samaritains, entendant la parole du Maître, vont le confesser comme le sauveur du monde. Pas seulement le sauveur des Juifs et des Samaritains, mais le sauveur du monde. Donc ça englobe bien toute l'humanité. Alors, je vais peut-être un peu vite en besogne. À la parole, mais l'heure vient, la femme dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ ». Elle n'est pas encore complètement sûre, mais elle le sait, de par la tradition, de par la tradition dont elle est porteuse. Elle sait, parce que les Samaritains le savaient aussi, semblablement juifs, que le Messie devait venir. Et il y avait une attente très forte. Quand le Messie est venu, c'est quand les temps ont été accomplis. Donc le Messie n'est pas venu à n'importe quel moment de l'histoire humaine, il est venu au moment où il devait venir, selon le dessein de Dieu, au moment où il était très fortement attendu. Hein ? Alors, ce Messie, pour les Samaritains, comme pour les Juifs d'ailleurs, mais là on est dans un contexte samaritain, il est dit que lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Donc, on est très très près de... On a encore monté un degré par l'emploi de ce nom Messie. On avait vu Juif, trois fois Seigneur, une fois prophète, et là, Messie. Donc, vous voyez, c'est... On se rapproche vraiment du dévoilement du mystère de la personne de Jésus. Et que va répondre Jésus à cette parole de la Samaritaine ? Il va dire « Je suis moi qui te parle. Ego eimi, je suis moi qui te parle. » Alors, l'emploi successif, évidemment, de ces expressions sont la marque de son itinéraire spirituel et, parallèlement, du dévoilement de la personne du Christ, de la personne du Messie qui était promis. Alors la Samaritaine, elle sait que, également parce que c'est dans sa tradition, elle sait que ce Messie, il doit établir le véritable culte de Dieu sur la terre, parce que ce Messie appartient à la tribu de Lévi, donc à la caste sacerdotale. Et donc c'est lui qui doit établir le véritable culte de Dieu sur terre. Alors, on peut à ce moment-là se poser une question. Quel est l'objectif que Jésus poursuit en dépassant l'opposition Jérusalem et le mont Garitsim? Eh bien, ce dépassement, cette affirmation, plutôt cette invocation du culte des vrais adorateurs en esprit et en vérité, c'est une préparation à cette révélation qu'il va faire à la femme. C'est le premier « je suis » qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Il y en aura d'autres, mais c'est la première fois. Et ce « je suis », c'est pas n'importe quoi. « Ego eimi », ça renvoie là aussi à Exode 3.14. Lorsque Moïse, sur la montagne sainte, dit « mais enfin, dis-moi ton nom pour que j'aille le proclamer aux enfants d'Israël », et il dit « je suis ». Voilà. Et ce « je suis » de la révélation de Dieu à Moïse sur la sainte montagne, eh bien, Jésus le reprend pour lui. C'est extraordinaire. C'est très très fort. Il dit à la Samaritaine, je suis, et elle sait, parce que, bon, c'est une femme simple et tout, elle n'est peut-être pas versée dans les Écritures, en tout cas, c'est ce que saint Jean Chrysostome, dans son homélie 34, nous suggère, mais elle sait, elle connaît les paroles de Dieu, la parole de Dieu à Moïse sur le mont Horeb. Donc, ça a dû, l'interpeller fortement que Jésus reprenne cette parole de la révélation de Dieu sur la sainte montagne. Et là, on est au cœur du mystère, parce que celui qui parle, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est celui qui parle à la Samaritaine, c'est le Dieu avant les siècles, c'est le Verbe éternel qui s'est fait homme. Donc on est mis en présence, elle est mise en présence du mystère insondable de l'incarnation de Dieu, de celui qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sauver. Alors il est dit après, oui, une autre remarque. La progression des titres qu'elle donne à Jésus, juif, trois fois Seigneur, prophète et Messie, c'est la progression dans sa libération de sa propre captivité intérieure. C'est la marque de la libération qui s'opère en elle de sa propre captivité intérieure. Et il nous est dit donc, au verset 29, la femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Elle n'est pas encore complètement sûre, il y a encore une interrogation en elle. Et le récit ajoute, « Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle n'a pas encore une certitude totale, mais elle a découvert la vérité. Et le fait de découvrir la vérité dans la personne du Christ, dans la personne de celui qui dit de lui-même « je suis », donc le fait de découvrir cette vérité, de le qualifier de le Messie, eh bien, ça la met en mouvement. Elle se fait témoin. Saint Jean Chrysostome nous le dit également, c'est-à-dire que elle, à partir de là, elle se fait apôtre en quelque sorte. Cette vérité à laquelle elle accède la met en mouvement vers les autres, parce qu'elle ne peut pas garder pour elle cette vérité. Donc elle va à la ville, vers des gens qui lui sont hostiles, à cause de sa vie. Et elle dit, cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ? Et par son témoignage, par le fait qu'elle s'est mise en route et qu'elle se fait témoin, eh bien, ça va appeler le témoignage final des Samaritains. Mais entre-temps, il y a, à partir des versets 31-38, il y a le discours sur les deux nourritures qui fait le pendant, finalement, au discours, au dialogue sur les deux eaux. C'est-à-dire qu'on voit les braves disciples, en plein malentendu, qui reviennent avec de la nourriture de la ville, et puis qu'il dit « Rabbi, mange !» Et le rabbi il dit « Non, non, ma nourriture, vous ne la connaissez pas. » Bon, quelqu'un lui aurait-il donné à manger ? Bon, c'est tout à fait savoureux, ça, mais ça montre que les disciples n'ont pas du tout compris la chose, qu'ils le voient discuter avec cette femme, et ils parlent entre eux, ils n'osent pas lui dire « Mais pourquoi tu discutes avec cette femme ?» Mais ils parlent entre eux, ils cherchent un peu à comprendre quelque chose, et puis ils ont cette réponse sur la nourriture qui fait le pendant sur les deux eaux. La nourriture, là dont parle Jésus, c'est plus la nourriture terrestre, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est la nourriture qui est la volonté du Père qui l'accomplit. Et il le dit, hein. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Verset 31-34. Donc, on comprend de ce fait que Jésus applique le symbole de la nourriture à l'accomplissement de sa mission. Il accomplit sa mission en ayant pris la nourriture, et cette nourriture, c'est la nourriture d'en haut, puisque c'est la volonté du Père qu'il l'a envoyé pour accomplir son dessein, justement. C'est la mission qui est confiée au Fils par le Père. Car la volonté de Dieu le Père est que le Fils accomplisse le salut de l'humanité et lui communique la vie. C'est bien ça l'enjeu. Hein. C'est accomplir... Le Messie vient pour inaugurer les temps nouveaux, les temps messianiques, et ces temps messianiques se caractérise par la communication de la vie qui vient de Dieu, et l'accomplissement de l'œuvre du salut qui vient également de Dieu et de sa volonté. Alors, voilà, Origène nous dit d'ailleurs à ce propos, la volonté du Père est véritable nourriture pour le Fils. Et Clément d'Alexandrie dit, le Fils est la volonté vivante et substantielle du Père. Au point où on en est, et on est quasiment à la fin, on voit que la femme de Samarie est parvenue à une certaine forme de maturité spirituelle. Elle a découvert, son désir va être comblé et elle se fait disciple, annonciatrice de la bonne nouvelle, de celui qui était attendu, tant par les Juifs que par les Samaritains. Alors, on voit à la fin, maintenant, on est donc à la fin, hein, 39-42, on voit que tous les protagonistes de ce récit au puits de Jacob que Jean nous rapporte, soit directement lui, soit d'un témoin oculaire de première main, mais il y a tout lieu de penser qu'il était parmi les disciples. En tout cas, c'est une hypothèse qui me paraît vraisemblable. On voit que tous sont rassemblés à partir du verset 39. Beaucoup croient en la parole croient en Jésus à cause de la parole de la femme qui avait témoigné « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Donc, sur ces entrefaits, les Samaritains viennent vers Jésus. Il le sollicite pour qu'il demeure chez eux, et il y demeure 2 jours. Et évidemment, Jésus leur parle, et le récit se termine. Il disait à la femme, « Désormais, ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui-ci, en vérité, et le sauveur du monde. Donc tous les personnages sont rassemblés. Les Samaritains écoutent la parole de Jésus. Ils découvrent, en écoutant cette parole, qu'il est beaucoup plus grand que ce que la Samaritaine leur a dit. Mais la parole de la Samaritaine, en tant que disciple, était importante, parce que c'est ce qui les a mis en mouvement pour aller vers Jésus. Mais du disciple au maître, ils ont entendu la parole du maître, et ils ont découvert vraiment qui était Jésus. Et c'est pourquoi ils le proclament, après l'avoir découvert, ils le proclament, celui-ci est vraiment, en vérité, le sauveur du monde. Et précédemment, donc, il y a une notation sur le rôle des disciples. Et c'est un verset intéressant, c'est au verset 38. « Moi, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'aviez pas labouré, d'autres ont labouré, et vous, vous êtes entrés dans le labeur. » C'est-à-dire que les prophètes avaient labouré, Jean-Baptiste avait labouré, il avait aplani les sentiers pour le Seigneur, et les disciples sont envoyés pour moissonner. Mais le symbole joue à plusieurs niveaux aussi, parce qu'on peut dire que c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui sème. C'est le premier acte de la semence vient de l'Esprit de Dieu. Le disciple laboure, et le moissonneur, c'est le Christ, évidemment. C'est Dieu qui récolte, c'est Dieu qui fait la récolte. Voilà ce que je peux dire sur ce récit absolument captivant et plein d'enseignements de la rencontre avec la Samaritaine. Un récit qui finalement est très très fort. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Allez-y. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, là, il y a un message de Sylvie. Quand dans l'Évangile, quelqu'un, la Samaritaine en l'occurrence, dit « Seigneur », cela ne signifie-t-il pas simplement « Monsieur » Est-ce « Kyrie » dans la Septante? Et ce mot grec a-t-il la polysémie de « Monseigneur »?« Monsieur » traduit-il l'hébreu « Adonai » Et ce mot hébreu a-t-il la même polysémie? Dans l'affirmative, on ne peut ni affirmer ni exclure que la Samaritaine reconnaisse en Jésus le Seigneur Adonai. On peut juste constater qu'elle lui parle poliment. Oui, ça c'est vrai. La remarque est vraie, mais dans la première nomination, le Seigneur. Les deux autres, on n'est plus dans le même contexte. Peut-être, la remarque est pertinente, on peut dire que le premier emploi du mot Seigneur est un peu comme on dirait monsieur. Hein? Comme en grec moderne, on dit curier pour monsieur, ou gospodier pour chez les Serbes, par exemple. Hein? Bon, oui, mais on voit très bien dans le contexte que le deuxième emploi de seigneur et le troisième n'ont plus la signification de monsieur. Il y a déjà.
C'est un autre adjectif qui
s'est. Oui. Comment?
C'est plus élevé.
C'est plus élevé, oui, il y a une compréhension intérieure qui a grandi là, dans la Samaritaine, qui fait que quand elle le désigne pour la deuxième fois Seigneur et pour la troisième fois, c'est plus une expression de politesse. Alors là, je ne sais pas, par contre, si Adonai en hébreu a la même polysémie que Kyrie, tel qu'il est employé dans notre texte. Je crois qu'Adonai, c'est réservé au Seigneur du ciel et de la terre. Je n'ai pas souvenir qu'on l'emploie comme forme de politesse pour désigner une personne. Mais, je peux me tromper, mais il y a d'autres termes. Maître, Baal, mais Adonai, non, c'est réservé au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais enfin bon, la remarque de Sylvie est pertinente, mais à mon sens, s'applique à la première désignation au Seigneur.
Moi, j'aurais une question. Vous avez dit que les cinq Maries, ça peut être les cinq peuples qui constituer la Samarie, oui. Donc les cinq idoles, c'est ce que vous avez trouvé chez les pères, c'est pas chez Saint Jean Chrysostome ou chez d'autres pères, d'autres liaisons par rapport à d'autres relations entre les cinq maries et je sais pas, d'autres formes d'idolâtrie plutôt.
Oui.
Les cinq maries, ça peut être les cinq sens ou les d'autres.
Tout à fait.
Ou, je sais pas si vous avez
tout à fait.
Oui. Cinq religions, catégories de religions,
oui.
Qui sont pour, dans le présent, dans notre présent. En fait, dans chaque époque, mais les six catégories, mais la sixième, c'est la catégorie de christianisme.
Oui.
Moi, je pense à ça parce que c'est, ça, c'est une, comme une prophétie avant de quand Jésus. Il va venir en fait, l'annonce, c'est comme une prophétie. Mmh. Que c'est le dernier.
Oui. Alors, bon.
Avant que Jésus vienne.
Voilà, donc j'ai ici là, les quatre homélies de Saint Jean Chrysostome qui sont vraiment très très intéressantes. C'est même magnifique. C'est vraiment des textes magnifiques. Hein. Je n'ai pas vu qu'il fasse référence aux cinq peuples qui habitaient la Samarie. Bon, il remarque bien qu'il y avait les païens qui habitaient la Samarie, mais vous avez parlé des cinq sens, oui, j'y ai pensé aussi à cette. Parce que les cinq sens peuvent produire cinq idoles. À côté, intérieurement, puisque les hommes sont divisés en eux-mêmes, ils doivent chercher l'unité en eux-mêmes, mais ils sont divisés, donc le culte au vrai Dieu peut aussi voisiner avec les cultes du vieil homme qui sont générés par les cinq sens, qui induisent des passions que l'on cultive.
À cause des cinq sens, c'est les cinq perceptions. Les six perceptions des religions, parce que vous voyez les juifs,
oui.
Ils voient Jésus comme un prophète, les musulmans comme des prophètes, presque comme un seigneur pour lui.
Oui.
Et après, dans la sixième catégorie, il y a aussi des qui sont protestants, dans les islamistes, qui sont
évangélistes,
qui voient Dieu chacun avec une autre perception.
Oui, oui, c'est.
Ici, ça s'appelle aussi.
Là, on peut, interpréter le texte, hein, je veux dire, c'est pas interdit, puisque vous savez que les textes des évangiles, ils parlent pour toutes les époques. Hein. Bon, donc, ils parlent pour toutes les époques et toutes les générations humaines, donc les lectures peuvent être variées. Moi, j'ai regardé assez attentivement les homélies de Saint Jean Chrysostome sur le sujet. Mais peut-être qu'il y a des pères qui donc ont la thématique des cinq sens, avec le sixième qui est un sens spirituel, les cinq sens qui sont les sens constitutifs de notre nature. Donc, mais je crois quand même que Saint Jean Chrysostome fait allusion à. Je ne peux pas le repérer présentement, mais il fait allusion quand même à la Samarie comme territoire mélangé et aux idolâtries qui y résidaient. Autre chose ?
Est-ce qu'il y a des récits comme celui d'aujourd'hui qui est pratiquement un dialogue privé entre deux personnes ?
Oui.
Et aussi le dialogue avec eux-mêmes est un dialogue privé avec entre deux personnes. Il y a des récits comme ça qui sont racontés par la suite. Qui les a transmis? Qui a transmis tous ces détails du dialogue et de ce qui s'est passé, parce que les disciples n'étaient pas là.
Oui.
Qui a transmis tous ces détails du dialogue de Nicodème, parce que les disciples n'étaient pas là.
Oui. Ben, ça, on ne le sait pas avec certitude. Bon, je veux dire, comme je l'ai dit au début, moi, je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs. Je prends l'hypothèse que c'est la narration d'un témoin. En tout ou partie, c'est la narration d'un témoin. Bon. Parce que, tout de même, je veux dire, quand on regarde ces détails, la finesse et la profondeur de tous les détails qui sont énoncés, ça me paraît...
Dans la tradition de l'Église, la Samaritaine est une des saintes, elle apparaît dans le synaxaire,
oui.
Avec un nom, le nom échappe là, mais non, et ça pourrait être elle-même qui a transmis à la communauté, aux disciples, aux apôtres.
C'est possible, c'est possible. Là j'ai bien pris soin dans ce que j'ai dit sur ce point particulier de dire que c'était qu'une hypothèse. Le texte n'en dit rien. Donc, est-ce que tous les disciples étaient partis à la ville? Est-ce qu'il y avait certains qui étaient présents en retrait, qui s'effacent derrière le récit? Est-ce que la Samaritaine a raconté cela de manière détaillée à Saint Jean, par exemple, on ne sait pas. Mais bon, alors bon, c'est un je préfère employer l'expression d'un entretien personnel plutôt que privé. En fait.
Il montre aussi la progression d'un homme qui peut être payant au début,
oui.
Mais il va finir par être disciple. C'est ça montre aussi la progression, mais par le Saint-Esprit,
oui.
Mais aussi par la repentance. Mais
oui.
Avec la volonté de la personne qui sent le Saint-Esprit à la terre.
Oui, parce qu'il y a ça. Évidemment, si on fait le parcours, si on prend le récit sous l'angle du parcours spirituel.
Comme c'était cette femme, elle était bien, mais elle a fini par être comme un autre.
Ah, bah oui. Elle fait. Ça, Saint Jean Chrysostome le dit très clairement. Il dit. Ayant reçu, étant parvenue à cette maturité spirituelle, elle fait fonction d'apôtre. C'est ce qu'il dit. Hein. Et effectivement, à partir du moment où elle a le pressentiment très fort qu'il s'agit bien du Messie, elle va à la ville et elle parle à des gens avec qui elle ne conversait pas. Elle ne souhaitait pas les rencontrer avant. Elle était même au banc de ces gens. Donc, Elle a le courage de l'apôtre.
Elle montre aussi son niveau spirituel.
Elle montre son niveau spirituel. Oui. Et elle montre son niveau spirituel et elle montre qu'elle est devenue porteuse de l'esprit parce qu'elle a le courage d'aller voir ses semblables à la ville. Et évidemment, l'évangile ne le dit pas, mais quand ils ont dû la voir arriver, ça n'a pas dû passer comme ça parce que c'était une femme qui était mise de côté. Ils entendent sa parole et ça les met eux-mêmes en mouvement. Ben, c'est le propre du disciple. Hein. Le disciple, c'est pas lui, c'est le verset 38, c'est pas lui qui a semé, c'est pas lui qui a labouré, mais il entre dans le champ de la moisson. Et en même temps, c'est la marque de la progression spirituelle. Là. Je veux dire, c'est la repentance, l'esprit. L'adoration en esprit en vérité, les qualificatifs qu'elle utilise pour parler à celui qui est au puits de Jacob. On a un dialogue vraiment qui est extrêmement fécond parce que c'est Jésus qui met le dialogue en mouvement par sa demande et à chaque fois il y a une progression dans les deux sens, progression spirituelle de la Samaritaine. Progression dans le dévoilement de la révélation de Jésus, de qui il est. Et c'est, je vous rappelle, c'est le premier « je suis » de l'évangile de Jean. On ne le rencontre pas avant, le « je suis ». On va le rencontrer après, mais là, c'est la première fois.
Et ça montre aussi que chaque personne est entrée pour cette partage.
Oui.
J'ai une question sur la lecture que vous faites de cette femme samaritaine. Si elle était mise de côté et puis si elle était peut-être un peu méprisée, pourquoi sa parole, quand elle est arrivée en courant dans la ville, pourquoi sa parole pouvait compter? C'était quelqu'un qu'on méprisait, que était mise de côté.
Et parce qu'elle est véridique. Elle dit « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Elle est véridique. Donc, évidemment, les autres...
Je pense que dans les mots quand elle a dit...
Alors, moi, je pense que la personne qui, il faut que je me prise, et qui ouais. vient me dire, venez voir, moi, je n'ai pas envie d'y aller. si c'est une personne qui est...
Mais bon. Je pense qu'à ce moment, oui. elle était changée par le Saint-Esprit. Parce que c'était oui. De sa côté aussi, elle a communiqué avec Jésus, et c'était de sa côté la paix du Saint-Esprit.
Bien sûr.
Il a été changé par le Saint-Esprit.
Absolument, mais en même temps, bon, l'évangile, il va à l'essentiel. On ne connaît pas tout le dialogue qu'il y a eu entre la Samaritaine et les gens de la ville. Bon, mais ils ont perçu qu'elle était véridique, alors qu'il l'a précédemment, il la tenait à l'écart. Il
a... Mais
ce
n'est bon. Pas elle qui l'a parlé, c'est le Saint-Esprit.
C'est l'Esprit à travers elle. C'est l'Esprit à travers elle. L'Esprit a parlé à travers elle, mais en disant quelque chose que les autres pouvaient recevoir. « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Vous voyez ? Donc, c'est une parole véridique et forte que les autres pouvaient recevoir. Et du coup, ça les met en mouvement. Ça éveille leur curiosité et ils y vont.
De voir qu'elle agit de ouais. façon inhabituelle, ça, effectivement, voilà. Ils se sont dit, il s'est passé quelque chose.
Et puis, souvenez-vous aussi du contexte de l'attente très forte du Messie.
Oui,
ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très prégnant dans la situation de ce temps. Tout le monde attend le Messie. Tout le monde attend le Messie. C'est-à-dire que consciemment ou confusément, on sait que c'est le temps où le Messie va venir.
Ça, c'est donc, dans chaque époque.
Oui. Voilà. Bon, alors donc, oui, on m'a demandé les dates. Alors oui, vous savez que on va changer de jour parce que il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 4 mars, il y a le module roumain qui se met en place. Oui, c'est-à-dire que les cours au centre Dumitru Stalinoae vont être donnés en français comme ils le sont depuis le début. Mais il va y avoir un module roumain de formation, notamment de formation permanente pour les prêtres. Et ça fait que jusqu'à présent, nous utilisions le mardi et le jeudi. Et pour nous, en français, ça va être le mercredi et le vendredi. Et non plus le jeudi. Alors, pour ce qui me concerne, ma prochaine intervention, c'est le vendredi 22 mars. Vendredi 22 mars, à la même heure, ici même. Mais c'est désormais le vendredi et non plus le jeudi.
Et les autres dates ?
Alors, attendez, si vous voulez... Oui, oui, c'est vrai que vous n'avez pas Internet.
Non.
Vous voulez pas vous y mettre ?
Ben, quand je pourrais.
Alors, donc, la prochaine fois, ça sera le... Bonsoir. Ça sera le discours sur le pain de vie, le chapitre 6. Ensuite, au mois d'avril, ça sera le vendredi 19 avril. Ça sera le chapitre 8, la lumière du monde et la véritable postérité d'Abraham. Ensuite, au mois de mai... Au mois de mai, ça sera le vendredi 24 mai. Donc les chapitres 9 et 10, la guérison de l'aveugle et je suis le bon berger. Et le dernier cours de l'année, au mois de juin, donc le vendredi 21 juin. Chapitre 11, la résurrection de Lazare, je suis la résurrection et la vie, et la décision de mettre à mort Jésus. Et au semestre suivant, le premier semestre suivant, j'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire la passion et résurrection et la fin de l'Évangile.
Le premier semestre suivant,
c'est... Donc, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre 2013.
Ah oui, d'accord. Oui.
On suit l'année universitaire.
Le dernier semestre.
Voilà. Oui, enfin, ce qu'on appelle premier semestre, c'est selon le calendrier universitaire, c'est-à-dire... On va de octobre à juin.
Mais donc le premier semestre termine l'Évangile.
Oui, je le terminerai, oui. Ah, oui. Après, au deuxième semestre, je ferai autre chose.
D'accord.
Parce que, bon, évidemment, on peut passer pas mal d'années sur l'Évangile de Jean. Hein. Clermont-Ferrand, on avait fait un groupe un groupe évangile, ça a duré 6 ans, et on a passé, près de, près de 3 ans sur l'évangile de Jean. Donc, là, je prends les grands épisodes de l'évangile, et puis après, on peut toujours revenir, mais voilà.